7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Le 23 septembre dernier, près d'un mois seulement après la rentrée scolaire, la France a été endeuillée par le suicide d'une directrice d'école maternelle à Pantin en Seine-Saint-Denis, Christine Renon. Dans une lettre qu'elle a laissée, cette directrice explique son geste par ses conditions de travail trop difficiles. Dans ce département, le plus pauvre de France, ils sont nombreux à se sentir abandonnés, sacrifiés par l'État. Un sentiment partagé dans d'autres zones urbaines sensibles de la région parisienne. En réaction, les initiatives citoyennes spontanées ont été nombreuses, en tête de cortège, dans la rue, devant les caméras. Ce sont les femmes, finalement, qu'on entend crier leur colère, et pas seulement depuis le suicide de cette directrice d'école. Des enseignantes, des mères de famille, des militantes, des élus alertent les pouvoirs publics sur le trafic de drogue, l'insécurité, le manque de moyens, les discriminations. Ce sont leurs mots, leurs inquiétudes. Alors les femmes peuvent-elles sauver les quartiers populaires et relégués? C'est un reportage d'Alice Milo. Bonjour Alice Milo.
Bonjour Emmanuel.
Ces dernières semaines, vous avez passé des heures dans le RER pour aller à la rencontre de ces femmes qui se mobilisent pour sauver leur territoire dans les banlieues.
Oui, effectivement, je suis allée à Bondy, à Saint-Denis, à Villeneuve-Saint-Georges, à Bobigny et à Noisy-le-Grand. Ce sont toutes des villes qui sont à un jet de pierre de Paris. Quand les transports en commun fonctionnent. Alors chaque fois c'est pareil, hein, il y a le centre-ville, souvent coquet, charmant, avec ses petites rues historiques, et il faut ensuite marcher longtemps à travers les quartiers pavillonnaires pour arriver enfin au pied des barres, des tours, des dalles, hein, qui constituent le cœur des cités. Et là, le mal est partout le même, le deal, le trafic de drogue qui gangrène ces quartiers jusque dans les écoles. Et oui, c'est le cas à Saint-Denis où les parents d'élèves du groupe scolaire Hugo Balzac, l'Ermitage, se mobilisent depuis le mois de mai déjà. Chaque matin, ils forment une chaîne humaine devant les grilles de l'école qui est située juste devant le commissariat.
20, mardi on était 37, lundi on était 22. Et on est allé jusqu'à 80, je crois, personnes qui se donnent la main devant cette école.
Depuis combien de temps le mouvement des chaînes humaines des parents d'élèves a commencé ici?
Ça a commencé suite à l'intrusion qui s'est déroulée le 13 mai. Ce jour-là, en fait, donc c'était un lundi, et à 16h, il y a un agent qui a vu s'introduire deux personnes sur le site. De trafiquants de drogue en fait, et on a vu ressortir qu'un seul. Et d'où la décision des trois directrices des écoles de déclencher un PPMS, c'est-à-dire un plan de mise en sûreté. C'est un protocole qui existe depuis plusieurs années et que les enfants connaissent un petit peu puisqu'ils s'entraînent à ça. Les enseignants ont des consignes pour fermer les rideaux, positionner les enfants à certains endroits. Et en fait, tant que la direction ne leur a pas donné le signal d'arrêter, ils ont pour mission de les confiner dans la classe sans bouger, sans qu'il y ait d'ouverture et de fermeture de la porte de la classe. En fait, ce qui était d'ailleurs assez angoissant pour les parents qui étaient devant l'école à 4h30, c'est l'heure de la sortie des classes. Ils ont vu pénétrer sur le site une dizaine de policiers armés. Ce lundi, ça a été une journée assez incroyable parce que ce jour-là aussi, les trois directrices avaient pris le parti d'aller porter plainte au commissariat parce qu'en fait, le lundi matin, il a été retrouvé dans les locaux trois boulettes de shit et une arme blanche. Donc elles sont allées porter plainte au commissariat aussi ce jour-là. Il y a 2 ans, on a retrouvé un sachet de drogue à Delaunay-Belleville qui est là. Elle dépend du même réseau d'éducation. En fait, cette école maternelle, elle est isolée et elle est quadrillée par des trafics de drogue. Un enfant a retrouvé un sachet de drogue dans la cour de récréation. Nos enfants, là, j'ai l'impression qu'ils sont complètement sacrifiés, quoi. Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Je suis impliquée comme parent d'élève à la FCPE depuis 15 ans et plus spécifiquement sur la violence depuis 2 ans. Mais jusqu'à maintenant, c'était collège, lycée. Et là, c'est ça qui me perturbe le plus, c'est que moi qui suis hyper impliquée, aujourd'hui, on retrouve de la drogue dans l'école maternelle de ma fille. Bonjour.
Bon, qui se mettent sur le chemin là. Comme ça, je vais pas vers Bourdin.
Bah sur le mail d'Ourdin.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui
Que le deal il soit arrêté de façon pérenne. C'est juste un droit, quoi. C'est qu'il soit plus là, en bas du collège, en train d'hurler. Ça passe, c'est le cri qu'on entend dans notre quartier de 11h à 3-4h du mat.
Ça veut dire quoi, ça passe?
Ça passe, ça veut dire que c'est les guetteurs qui disent ça passe quand il y a des policiers qui passent. Pour alerter leurs camarades de deal, quoi.
Non, mais oui, c'est révoltant. Et puis, ce qui est encore plus révoltant pour moi, en tant que maman, c'est d'arriver chez moi et de tomber sur le deal, quoi. C'est que mes gamins, ils courent devant et, en fait, ils sont stoppés parce qu'en fait, il y a des mecs dans notre allée qui sont en train de faire leur échange. Et moi, j'ai pas envie que mes gamins voient ça. Et en plus, on sait pas qui sont ces gens-là. C'est des gens défoncés. Ils sont capables de tout, enfin, quand ils ont besoin de leur dose. Donc, à quel moment on réagira quand mon gamin se fera tuer, tabasser, violer ou attoucher? Enfin, j'en sais rien. C'est ça, en fait, finalement, c'est qu'on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité parce qu'il y a des dealers. On n'est pas en sécurité parce que leurs clients viennent sur place acheter, mais consomment sur place. J'ai beau leur dire, vous pouvez pas rester là, c'est une propriété privée. Oui, oui, madame, on s'en va, mais ils s'en vont pas. Donc au final, nos gamins sont confrontés à ça. Parce que moi, je dois expliquer à mes gamins qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les messieurs là qui s'échangent de l'argent et des choses bizarres. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de crier à la fille au collège? Pourquoi est-ce qu'ils crient c'est bon là? Pourquoi est-ce qu'ils crient... Bah, d'ailleurs, hier, on est passé, j'entends... Enfin, ils ont crié à l'arrêt, je crois. Et ma fille qui me dit, maman, pourquoi ils crient, je vois pas le camion de police? Voilà. Donc en fait, ils savent.
Elle avait décrypté.
Voilà, ils savent qu'en fait, c'est quand la police arrive qu'ils crient.
C'est quoi le petit lexique du petit dealer du quartier?
À l'affût devant, à l'affût derrière, à l'affût à la cabine, donc ça signale la position, à l'affût à la rose.
Ça fait 2 ans que j'en parle en sous-préfecture. Moi, ça me plombe de voir des gamins au parc, à 3 ans, même pas, quoi, qui sont en train de jouer à ça.
Nos gamins jouent à ça. Ils jouent aux policiers et aux dealers.
Après, on va dire, ouais, ça a toujours été, on a toujours joué aux cow-boys, aux indiens. Ça me révolte d'entendre ça.
Il y a des parents qui laissent descendre leurs enfants au parc tout seuls. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc on attend un drame, comme d'habitude.
Pourquoi vous partez pas?
Parce qu'on veut pas laisser tomber, parce qu'on aime bien Saint-Denis.
Pourquoi ça serait à nous de partir? Putain, nous, on est les gens honnêtes, on ne demande pas grand-chose. On demande d'avoir un parc pour faire jouer des gamins, une école normale où ils peuvent aller dans le quartier sans avoir besoin d'aller dans le privé, avoir d'autres méthodes avec 30 gamins par classe. Et pourquoi ça serait à nous de partir, putain? C'est un truc de dingue, ça, d'entendre ça.
Moi, j'ai un crédit sur le dos. Si je pars, je perds 60 000 euros.
Ah oui. Ceux qui ont acheté il y a quelques années ont acheté au prix fort. Et le trafic a vachement fait baisser. Bouba le disait, si je me mets en bas de ton immeuble, je fais dégringoler les prix. Et bien c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on a plein de propriétaires qui voudraient partir, des retraités même, hein, qui voudraient partir tout simplement à la retraite, mais qui ne peuvent pas. Parce qu'en fait, le prix de l'immobilier a chuté de ce côté, à cause du trafic entre autres.
Mais ce qui est étonnant, c'est que vous êtes en colère et en même temps, vous ne dirigez pas du tout votre colère contre les dealers, j'ai l'impression.
Parce que ce n'est pas de leur faute. Ça, c'est des pions, ces gamins. Les guetteurs sont des pions, c'est des esclaves. C'est pas une vie de rester assis là toute la journée, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, pas pouvoir aller aux toilettes, pas pouvoir aller manger, pas bouger en fait, finalement, c'est pas une vie. Je pense qu'ils se rendent pas compte. Aujourd'hui, ils ont 13, 14 ans, 80 euros, c'est beaucoup pour eux. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera rien. Ils auront perdu leur temps, en fait. Ils n'auront pas eu d'éducation, ils n'auront pas eu de diplôme. Et ils auront d'autres choix que soit finir en prison ou monter dans le système de trafic. C'est triste en fait, on a mal pour eux.
Catherine, Solange, Nadine, 3 mamans d'élèves à Saint-Denis dans le 93. Alice Milot, on les entend à la fin de votre interview exprimer malgré tout de l'empathie envers les trafiquants de drogue. Ça paraît incroyable.
Et oui, mais parce que ces mamans en fait ont bien compris que le problème est structurel, hein, donc elles n'attendent pas une réponse musclée de la part de la préfecture, mais elles exigent que le 93 soit doté des mêmes moyens que les autres territoires. Et 5 élus, 5 maires de Seine-Saint-Denis ont exprimé la même chose début septembre. Ils ont décidé de porter plainte contre les pour discrimination territoriale. En effet, les chiffres sont accablants. 12 mois de délai d'audience au tribunal d'Aubervilliers contre 2 mois à Paris. À Stain, on compte un policier pour 600 habitants contre 1 pour 300 à Paris. La perte d'une année de scolarité pour les écoliers du 93 faute de remplacement des enseignants. Bref, autant de causes qui expliquent le taux record de décrochage scolaire dans ce département et un élève qui décroche et potentiellement une bonne recrue pour les trafiquants de drogue.
Un département donc sous-doté. Et à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, finalement, ce sont aussi, dans un autre département, des mères de famille qui se mobilisent sur le terrain. Mais là, il ne s'agit plus de chaînes humaines, mais cette fois de maraudes de nuit.
Oui, et l'initiative vient de Fanta Makalou. C'est une maman de 4 enfants. Fanta a grandi au Mali. Elle arrive en France en 1996 et se fait embaucher par un groupe de la grande distribution. Cela fait près de 20 ans qu'elle travaille dans des entrepôts où elle démarre sa journée à 3h du matin. Son mari, lui, est convoyeur de fonds. Fanta aime Villeneuve-Saint-Georges, mais se désole des violences qui gangrènent son quartier. Alors, c'est pour ça qu'en 2012, elle fonde l'association Femmes Solidaires pour mettre en place de la médiation. Mais depuis un mois, elles ont décidé carrément de passer à la vitesse supérieure en organisant chaque soir des maraudes dans les quartiers.
Au départ, on était une vingtaine de mamans à se dire, toutes les nuits, on va aller sillonner le quartier, faire des rondes contre toute forme de violence. Il y a eu quand même 3 jeunes depuis l'année dernière qui sont morts de façon, je dirais, horrible. Parce que avant c'était le conflit interquartier, maintenant c'est des amis d'enfance, des jeunes qui se connaissent, qui ont grandi ensemble, qui s'entretuent. Il y a eu Pierre, on ne connaît pas la cause, son corps a été retrouvé sur les rails entre Villeneuve-Triage et Villeneuve-Prairie. Après, il y a eu Mamadou à Triage, qui a été tué par son voisin, qui a ensuite pris la fuite. Jusqu'à présent, il n'a pas été retrouvé. Et là, au mois d'août, il y a eu Nicolas, un jeune de 23 ans. D'après la famille, il a été tué parce qu'il avait une dette d'une centaine d'euros. Je dis maintenant, à Villeneuve, pour une centaine d'euros, on tue à Villeneuve. Donc nous, on n'a plus envie d'enterrer nos enfants. Maintenant, il faut dire stop. Et nous, aujourd'hui, on ne va plus accepter qu'il y ait une zone de non-droit. Ce n'est pas parce qu'on habite dans une cité qu'il doit obligatoirement avoir un coin de deal. Dans le centre commercial du plateau, dont les habitants disent que c'est une zone de non-droit qui est squattée, où je le dis très clairement, où il y a des dealers. Et ce n'est pas des jeunes d'ailleurs qui viennent dealer, mais c'est nos enfants. On a décidé qu'on allait faire les maraudes toutes les nuits de 22h30 à 2h du matin. On va faire des rondes dans le quartier à la rencontre des jeunes. Et l'arme qu'on a, c'est voilà, de mettre un gilet, les gilets orange et le dialogue. La première semaine, en fait, on allait vers les jeunes. Ils prenaient la fuite. Ils n'ont pas envie que nous, les mamans du quartier, on voit ce qu'ils sont en train de faire. Tout simplement, ils ont honte. Donc, des fois, on les suit, on les identifie. On a quand même vu ces jeunes grandir. On les connaît. Donc, on connaît aussi les familles. On a les numéros de téléphone. On appelle les parents. On leur dit non, un enfant mineur ne doit pas être dehors à 22h30. Donc on a mis carrément le couvre-feu dans le quartier de façon informelle. Aujourd'hui à 21h, je vois des mamans, quand on arrive, on a nos gilets, je vois des mamans courir, aller chercher leurs enfants. Donc il y a quand même le commerçant, le grec, pour soutenir l'action à partir de 22h, il ne vend plus aux mineurs. Avant, il y avait des enfants à l'âge de 10 ans qui étaient là jusqu'à minuit. Et là, il n'y a pas d'enfants mineurs.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait en sorte que les parents reprennent leurs responsabilités.
Exactement. Je fais à l'africaine. Au Mali, c'est tout un village qui éduque l'enfant. Le voisin, les tontons, les tatas, tout le monde se mêle. Je le dis haut et fort, les mères du plateau, elles peuvent enlever ce coin de deal. Maintenant, quand on arrive, il y en a qui ne prennent pas la fuite. Ils viennent vers nous. Pourquoi vous faites ça? Et il y a un dialogue qui s'installe. Bien, on fait ça parce qu'on n'a pas envie d'être à la place de la mère de Nicolas. J'ai un fils de 17 ans qui a des amis dans le quartier. C'est pour me protéger que je fais ça. On dit aux jeunes, on est là, surtout on n'est pas dans le jugement, dire pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça, oui, mais est-ce que vous le faites parce que ça vous fait plaisir, parce que vous cherchez l'argent facile ou vous avez des difficultés à vous en sortir? Et par moments, on était en pleurs. Quand on creuse l'abcès, on voit qu'il y a des jeunes qui ont décroché à l'âge de 12 ans. Il y en a d'autres qui ont des casiers judiciaires, qui veulent s'en sortir, parce qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont fait des bêtises et toutes les portes se sont fermées. Il y en a qui me disent, Tata, mais on est obligé de faire notre argent à notre façon parce que personne ne veut de nous. Il y a des familles qui font des enfants pour vivre.
Vous voulez dire pour toucher des allocations familiales ?
Mais pour les aides. Moi, je me dis à un moment donné, il faut arrêter parce que ces enfants-là, ils ne sont pas nés par amour. Ils sont nés par besoin. Avoir des enfants, quand on a les moyens, oui, pourquoi pas ? Parce qu'on a les moyens. Mais on ne peut pas continuer sur l'État pour élever ses enfants. Il faut que ces femmes-là travaillent. Parce que ces jeunes qui grandissent dans des familles nombreuses, ils sont en carence affective familiale. Je suis bien placé pour le dire. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est dans la bouche d'une raciste. Il y a, comme je le dis, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Il y a les familles, il y a l'État. Mais il faut aussi dire les choses sans tabou.
Comment, Fanta Makalo, vous pouvez convaincre ? C'est-à-dire que, quelque part, vos mots de mère, comment ils peuvent peser face à des centaines d'euros gagnés facilement ?
Parce qu'il y en a qui ont quand même l'envie de s'en sortir. Il y en a qui ont vraiment envie d'arrêter tout ça. Donc, il faut juste un accompagnement par des contrats de professionnalisation en leur proposant des emplois. S'ils ne viennent pas à la mission locale, que la mission locale aille vers eux.
Vous, votre objectif, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est de les remettre ou sur le chemin de l'école ou sur le chemin du travail.
Exactement. On a eu des jeunes qui ont repris le chemin du lycée, ceux qui sont en alternance. Il y en a eu 4 depuis le mois de septembre. Donc, je me dis, s'il y a plusieurs mains pour former une chaîne, accompagner ce jeune-là, pourquoi pas ? Il peut devenir le médecin de demain.
Fanta Makalo à Villeneuve-Saint-Georges. Alice Milo, quand on évoque les solutions pour sortir les jeunes de ces zones urbaines sensibles de leur impasse, l'école reste au cœur de tous les discours ?
Oui, et la question de l'école dans ces zones urbaines sensibles est hautement politique. La mixité sociale existe parfois sur ces territoires car les cités sont collées à des quartiers pavillonnaires, mais cette mixité-là ne se retrouve pas dans l'école. Explication avec Véronique Decker, elle était la directrice de l'école Marie Curie à Bobigny. Je dis été parce qu'elle est à la retraite depuis cet été.
Il faut qu'il y ait un anime là parce que sinon ils s'insultent avec ceux qui sont dehors. Viens me voir. T'étais où ce matin ?
J'étais en retard.
Non, ça me va. Même en retard, tu viens à l'école. Je vais appeler maman. C'est l'heure, vous pouvez rentrer. Alors, on est au cœur de la cité Karl Marx. Auparavant, il y avait une dalle et 10 tours sur la dalle. La dalle a été détruite. 4 des 10 tours ont été détruites. 6 ont été rénovées.
Vous recevez dans cette école les enfants qui vivent dans les immeubles autour ?
Oui, oui, oui. On a exclusivement les enfants des immeubles HLM. Les immeubles en copropriété ont été affectés à l'école qui est là-bas, de l'autre côté de la rue.
Donc à 100 mètres.
C'est ça. Mais ils ont 100% des copropriétaires et nous 0%.
Ça, c'est une volonté de la part de l'inspection d'académie ?
Pas du tout. C'est les municipalités qui décident des sectorisations scolaires.
Quand est-ce qu'elle a été construite, cette deuxième école ?
Il y a 5 ans. Mais comme elle a été partiellement probablement payée par les promoteurs, parce que c'est comme ça que ça se fait dans toutes les rénovations urbaines maintenant. Les promoteurs payent une partie des équipements dont ils demandent la réserve aux habitants des immeubles qu'ils construisent. La mixité sociale ne se décrète pas.
J'ai 2 mois de dire, c'est pas toi que je gronde, c'est pas toi que je gronde. Je vais la laisser mariner. Toujours bon de laisser mariner les CO2.
Plus de la moitié des élèves de l'école sont noirs. Tous français, hein, d'accord ? Ça n'est pas du tout à l'image de la réalité de la population française. Et du coup, les enfants, quand on les emmène en classe verte, ça leur fait bizarre d'arriver dans une école où il n'y a que des blancs, par exemple. On a regroupé dans ce département de nombreuses populations précaires. Et cette apartheid sociale, culturelle et ethnique n'est bon pour personne. Après, Il y avait la loi SRU, que chaque commune construise 20% de logements sociaux, et on n'est pas capable de la faire appliquer, ce que je ne comprends pas, parce que si on avait dit que les maires ne seraient plus éligibles s'ils ne respectaient pas la loi, eh bien tout le monde l'aurait appliqué. Hein ? Là, la concentration des logements sociaux dans des villes comme Bobigny, elle est proprement délirante. On doit avoir plus de 50% de l'habitat en HLM. Là, on va vers une explosion sociale. Il est indispensable qu'il y ait un brassage. Parce que sinon, les populations ne se connaissent pas et du coup, ils ont peur. Ils se font peur. Nous, on voit, hein, ça nous arrive d'arriver pour visiter un musée et que les gardiens du musée suivent notre groupe. Comme si nos élèves étaient potentiellement dangereux. Pour le musée, en tout cas. Alors, la précarité des élèves, tout le monde la voit, tout le monde la connaît. C'est-à-dire que quand vous commandez chez Amazon, vous vous doutez bien qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, le matin, en étant payés pas cher pour livrer les colis, pour emballer les colis. Quand vous faites vos courses le dimanche à la FNAC, vous vous doutez bien que les caissières de la FNAC, eh ben, des fois, elles ont des enfants. Et personne ne se pose la question. Tout le monde veut avoir des services, des conciergeries qui fonctionnent jour et nuit. Des chauffeurs Uber qui travaillent jour et nuit, et personne ne se pose la question, mais comment vivent les enfants de ces gens-là? Et donc, nous, on a beaucoup d'enfants qui sont à l'abandon, non pas que leurs parents veuillent les abandonner, mais que les horaires de travail de leurs parents font que c'est compliqué pour eux de gérer les rythmes circadiens d'un enfant, parce que les écoles ne sont pas ouvertes le dimanche, les centres de loisirs non plus. Donc, que font les enfants des gens de chez Amazon le dimanche? C'est une question que personne ne se pose, mais qu'il faudrait se poser. Parce que ces enfants-là ont des enfances bafouées. Alors, certains vont chez leurs grands-parents, d'autres restent avec leur PlayStation, d'autres zonent dans le quartier, d'autres restent gardés par des ados. Mais dans tous les cas, c'est destructeur pour la vie de famille.
Quelqu'un dit entrer, quelqu'un dit entrer. Personne n'a dit entrer. Soit tu t'assois là, tu bouges pas parce que j'ai deux mots à dire après. Et vous? Merci.
Vous, au quotidien, vous avez quand même du coup à éponger hein, des problématiques sociales qui ne sont pas de votre ressort en fin de compte.
Ah ben moi je fais que ça. C'est-à-dire que des gens, ils viennent me voir parce qu'ils ne comprennent pas leur fiche de paye, parce qu'ils n'ont pas l'argent de la classe verte, parce qu'ils ne savent pas où dormir ce soir. On reçoit de plein fouet des tas de désordres sociaux, des gens qui ne se lèvent pas parce qu'ils ont travaillé jusqu'à 1h du matin, ils ne se sont pas levés le matin pour emmener leur gamin à l'école et... toutes sortes de situations, des gens qui ne savent pas remplir le dossier d'enfants handicapés de leur fils cadet, des gens qui n'ont pas touché le RSA à temps, enfin voilà. Aujourd'hui, il faut poser la question sur une plateforme informatisée. Vous savez, que ce soit pour la Sécu, pour ceci, pour cela. Enfin, les gens, ils ont qu'un petit smartphone, ils n'y arrivent pas, ils galèrent, ils s'énervent. Ils ne trouvent pas de solution, donc ils finissent chez le seul fonctionnaire toujours disponible chaque matin à l'entrée de l'école. Ce qui fait que je ne suis pas en burn-out, c'est que quand je dis « je », c'est toujours un « nous » en fait. Et que sur les 16 enseignants, il y a toujours quelqu'un qui va se rendre disponible pour aller faire ci, faire ça.
Pourquoi être resté ici ? Malgré les difficultés, malgré l'épuisement au quotidien, malgré le sentiment de découragement qui a dû vous traverser mille fois.
Ici, on a le plaisir de se dire que ce que les enfants apprennent, en général, ils l'apprennent avec nous, les enseignants. Et un grand nombre d'entre eux ont des parcours scolaires tout à fait intéressants. Parce qu'un certain nombre d'enfants comprennent très tôt que l'école est le seul chemin, qu'ils n'hériteront de rien, qui ne sont ni fils de roi ni fils de prince, et que la seule chose dont ils pourront hériter, c'est le courage d'apprendre. Et donc, on a des enfants qui ont une très belle maturité, que ces difficultés sociales leur ont permis de réfléchir et de mûrir plus vite que les enfants plus protégés, plus entourés par leur famille. on a dans les mains une partie de leur avenir, vraiment.
Yasmine, bonjour, réponds-moi oui. D'accord, est-ce que tu penseras le dire à tes parents ce soir? Sors ton cahier de correspondance. Je vais leur mettre un mot.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on a entendu cette ex-directrice d'école aujourd'hui à la retraite se battre pour ses élèves. Alors c'est vrai qu'aussi malgré les tentatives de décloisonnement entreprises par les différentes villes à travers leurs plans locaux d'urbanisme ces 10 dernières années, la ghettoisation reste un problème. Alice Milot, vous avez fait le choix dans votre reportage de donner la parole à des femmes qui sont des personnalités dans le quartier ou leur école.
Oui, ce sont des femmes qui se démarquent en effet par leur franc-parler et leur courage pour affronter la réalité et agir. Direction Noisy-le-Grand, où j'ai rendez-vous avec Nadia Remanna, fondatrice de l'association de la Brigade des Mères. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Nadia ?
Oui, bonjour, je suis Nadia. Je vous ai donné rendez-vous ici parce que moi-même, j'ai rendez-vous aujourd'hui, comme chaque lundi, avec des familles ici conçues dans le cadre de mon association Brigade des Mères. Alors, comme vous le voyez ici, alors c'est une résidence sociale.
Donc, voilà. Paris Noisy Résidence. Hein.
Qui est financée par le 115, c'est le SAMU social, voilà. Et comme vous regardez par là, par l'extérieur, mais c'est des toutes petites chambres, peut-être on va dire 15 mètres carrés. Il y a un grand, grand manque d'hygiène, il y a les cafards, les punaises, il y a... Voilà, mais les gens, malheureusement, c'est ça ou la rue, puis c'est pas évident. Puis le lundi, on essaye de faire le point avec leur situation, après ça dépend. Excusez-moi, on appelle. Ah ouais, c'est Loubna. Oui, Loubna. Alaykoum salam. Ah non, on va dire que tu sais comment c'est, mais il faut. Je suis désolée, je suis obligée de parler en arabe parce qu'elle comprend pas. Je lui explique. Allez là. Allez, Loubna.
Bonjour.
Ça va?
Ça va et vous? Donc Loumna, vous habitiez ici en fait, oui, avant, c'est ça, voilà. Dans cet hôtel, voilà. C'est ça?
Oui. On
habitait là, oui.
On habitait ici.
Et vous avez vécu combien de temps ici?
Deux mois environ.
Après, j'anime un SMS.
Vous devez sortir.
Donc vous avez été expulsé un peu sans raison en fait.
Exactement.
Vous êtes retrouvée du jour au lendemain, Loumna, avec vos enfants à la rue alors?
Oui, je suis à la rue.
Avec combien de vos enfants?
Avec trois enfants.
Qui ont quel âge?
10 mois, 6 ans et un fils 10 ans.
C'est que des situations comme ça, effectivement. Alors, quelle assistance sociale ou éducateur, il n'y a pas de médias, personne. Ces gens-là sont livrés à eux-mêmes. Plus, il y a de l'argent là-dedans. Vous savez combien par famille? Au moins 1 500 € par famille. C'est
payé par l'État,
oui,
au propriétaire de l'hôtel.
Exactement, exactement, c'est ça.
Donc finalement, plus qu'un
logement, plus qu'un loyer. Et en plus, il faut voir dans quel contexte c'est des punaises, un manque d'hygiène. Alors, les poubelles, je pense que je suis sûre qu'il y a le choléra là-dedans. C'est horrible, vous vous rendez compte, ils ont le droit de recevoir personne dans les chambres, ils n'ont même pas le droit de cuisiner, elles cuisinent pour certaines en cachette. Alors à un moment donné, je pense qu'il faut les dénoncer, là. C'est pourri, là. Pour moi c'est de la mafia qui prennent de l'argent sur la misère des gens, à force de les laisser comme ça, et puis tout le monde les uns contre les autres, il y a un peu de tout, hein. Il y a du deal, il y a du shit, il y a un islam radical, la majorité des femmes se sont voilées, et quand je leur ai dit pourquoi...
Vous voulez dire dans la résidence?
Oui, dans la résidence, c'est des femmes, il y en a une, elle m'a dit, moi en Tunisie je n'étais pas voilée, j'ai la pression d'ici. Oui, j'ai eu encore...
Des autres résidents?
Oui, des autres résidents. Il y a une pression. Moi, j'ai connu une famille tunisienne de Sevran et maintenant, ils sont là. Le père avait quitté la Tunisie à cause de ce qui se passait en Tunisie. J'ai été choquée. L'autre fois, je le vois, on te dit, avec le djelbab et sa femme. Sa femme me dit, il me fait la pression parce que dehors, on lui fait la pression. Parce qu'au lieu de leur crier, travail des coudes de liberté, on leur a mis quoi? Bah, la mosquée juste à côté. Alors les gens, quand sont dans la fatalité...
Elle est où la mosquée?
Elle est juste derrière. Alors quand les gens sont dans la fatalité et dans la souffrance, bah, ça les réconforte. Hein. On ne peut pas dire aux gens, bah, si c'est le seul endroit qui les réconforte. Et après, il y a la pression des voisins. Et puis en plus, ils sont enfermés. On a l'impression de vivre dans un village. J'ai l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Il faut arrêter, les religions, c'est chacun chez soi, c'est privé. Je ne sais pas, on est en France, c'est dans un pays libre, on a le droit d'être libre, et tu t'enfermes dans un truc, il faut vraiment... Je ne sais pas quoi, nous on a souvent... En plus, moi, ma liberté, je l'ai souffert, je ne l'ai pas acquise comme ça. Hein.
Parce que c'est quoi votre histoire, Nadia, en fait?
Alors moi, je suis née en France, à l'âge de 15 ans, mon père, il nous rapatrie tous en Algérie. Au début, il nous dit qu'on part en vacances, et arrivé à Annaba, une ville d'Algérie, il nous dit, de toute façon, vous ne retournerez plus en France, vous allez rester là. Pour lui, c'était la réputation de dire qu'il a sauvé ses filles et ses filles ne vont pas épouser un Français. Ils sont élevés dans la tradition. Voilà, elles vont épouser des bons musulmans. Et après, je suis dans ce village où vivent la moitié de ma famille, mes cousins, mes cousines, mes tantes et tout ça. J'ai beaucoup de demandes en mariage. J'arrive à m'opposer et à refuser. Alors, vu que...
Vous ne l'avez pas imposé au bout d'un
moment ? Si, on m'a imposé. Ils ont fait les fiançailles, comme ils disent, les mariages religieux. À chaque fois, j'avais rompu. J'étais quand même enfermée. J'étais surveillée 24 heures sur 24. Et du coup, malheureusement, cette sale histoire a duré 10 ans. Et après, je me sauve. J'ai fugué de l'Algérie en France. J'arrive au consulat, en l'ambassade de France.
Vous vous installez dans le 93 ? Dans différentes villes, oui. Vous fondez une vie de famille, oui, vous devenez une travailleuse sociale, vous vous mariez une première fois, oui, puis vous divorcez, c'est ça ?
Oui, je me marie une première fois. Quand j'ai divorcé, mes jumeaux, parce que les derniers c'est des jumeaux, eh ben, ils avaient 2 mois. Hein. Mais je les ai élevés, c'était dur, hein. On ne peut pas dire que c'était pas évident d'élever 4 enfants toute seule.
Maman ! C'est bien quand même ici.
Il faut venir le soir ici.
Ah oui ?
Entre les dealers, les trucs, les islamistes, les gamins qui traînent jusqu'à 2h, 3h du matin.
Sur cette esplanade ?
Oui, sur cette esplanade. Je dis au maire, vous n'avez pas peur pour vos enfants ? Il dit, ouais, mais c'est tellement petit dans les appartements que les mères, eh ben, elles laissent leurs enfants. Vous dites le jour qu'ils vont se retourner contre nous, que ça. Il n'y a pas d'accompagnement, les gens, voilà, c'est l'anarchie. Alors j'ai créé la brigade des mères en juin 2014 parce que j'étais médiatrice scolaire. Et je voyais qu'il y avait de plus en plus d'échecs scolaires, de femmes victimes de violences conjugales, et il y avait l'islamisme qui venait de s'installer. Et on a eu beaucoup de jeunes qui sont partis en Syrie.
À Sevran ?
Oui, à Sevran.
Vous habitiez ?
Oui, là où j'habitais et ailleurs. Et je me suis dit, là, on ne peut plus. Il fallait qu'on essaye de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Comment que ça se fait aujourd'hui un jeune qui est né en France, qui a gardé, décide d'aller en Syrie, laisser son père, sa mère, ses copains et part. C'est qu'il y a eu quelque chose, on a échoué quelque part. Ben moi, je dis qu'effectivement, on a laissé les grands frères, on a laissé les islamistes radicaux dans les quartiers prendre du terrain. C'était la grande erreur de retirer la police de proximité. Et puis, ils nous ont remplacés par les grands frères actuellement. Et je trouve que là, c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, on a des fillettes qui sont voilées de 5 ans, de 6 ans, et ça dérange personne. Pendant la période du Ramadan, on a des restaurants qui sont fermés, des boutiques qui sont fermées. On a l'impression d'être dans un pays musulman. Même dans certains arrondissements de Paris. Moi, j'ai des amis qui sont dans le 18e. Je suis souvent dans le 18e avec des amis comme moi, berbères et tout ça. J'ai même un ami qui s'est fait agresser à 3 reprises parce qu'il mangeait pendant le Ramadan. Si on ne fait rien, ça veut dire demain, vous en robe, vous n'aurez pas le droit parce qu'on va vous dire oui, mais quand même, tu dois respecter, c'est le Ramadan. Pardon ? Ça a pris de plus en plus d'ampleur. Bien au contraire, depuis, malheureusement, depuis 5 ans, mais je pense qu'à un moment donné, il y a eu une lâcheté, il y a eu un intérêt électoral et aujourd'hui, je pense que c'est l'arroseur arrosé. Vous savez, quand on commence à négocier avec ces gens-là, ça veut dire qu'on a perdu la moitié du combat. Et je vois, là, il y a l'islam de France, là. On nous dit souvent oui, mais vous faites un discours du FN, pardon, excusez-moi. On dit oui, vous avez un... Pardon, moi je fais un discours de fête. Écoutez, moi je suis désolée, nous on parle de la réalité.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Les femmes peuvent-elles sauver les quartiers populaires en France ? C'est la question que pose ce grand reportage Alice Milot à Bobigny, à Saint-Denis, à Villeneuve-Saint-Georges, à Noisy-le-Grand, à Bondy. Vous avez rencontré des mères de famille, des militantes, des enseignantes et même une boxeuse.
Oui, il s'agit d'Audrey Chenu. Elle est boxeuse, mais pas seulement. Elle est aussi professeure et elle enseigne à Bobigny, dans la même école d'ailleurs que Véronique Decker, la directrice que l'on a entendue précédemment. Depuis quelques années, Audrey Chenu propose aussi des cours de boxe à Saint-Denis, des cours réservés exclusivement aux femmes.
Changez les rôles, tout de suite. T'es en défense, Myriam, maintenant.
Stop, soufflez, revenez. Allez, Yamanja, Yasmine. Ok, premier uppercut ici et le deuxième en blocage. Allez, dans l'autre sens, sur place.
J'ai commencé la boxe anglaise en 2009. Puis ce que je voyais aussi à la salle où je m'entraînais en mixité, c'est-à-dire en majorité masculine, du coup, beaucoup de femmes qui partaient, ça se passait pas bien pour elles. Et du coup, j'ai eu envie d'enseigner la boxe autrement, avec justement ce bagage du féminisme. Quand j'ai commencé à entraîner, j'avais quoi, 4-5 femmes, bon, voilà. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai qu'en ce moment, on est entre 20 et 40. Donc oui, ça correspond à un besoin, à une demande. Et en fait, moi, la boxe, ça m'a fait beaucoup de bien physique et mental. Et je me disais que c'était un outil ou une arme, selon comment on voit les choses, que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre de femmes. Aussi parce que j'ai été agressée assez souvent. souvent dans la rue, bon, comme tout le monde, je pense, enfin, en tant que femme ou en tant que lesbienne, c'est courant. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner un peu sérieusement, à faire de la boxe et tout, on m'agressait plus.
Allez, sautillez en garde, rentrez ce menton, protégez-vous, boxe.
Racontez-moi un peu ce que vous venez de faire, là.
Un sparring.
C'est quoi un sparring?
Un combat de boxe libre. Donc ça dure 2 minutes et...
Chacun voit ce qu'il peut, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, j'avais fait un cours qui était en mixte avant, donc il y avait des hommes aussi. Enfin, c'était pas la même ambiance. Il y avait un truc quand même vachement plus viril de « on va faire sans pompe et tu vas te faire exploser par quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend », alors que c'est pas du tout comme ça, c'est vachement bienveillant, tu progresses à ton rythme. Pour moi, au départ, il y avait aussi une question de défense, de même apprendre à savoir taper et pouvoir aussi se sentir plus à l'aise en espace public, se dire que si jamais il se passe quelque chose, je suis pas sans défense, justement. Oui, moi, je me suis déjà faite agresser, ouais, parce que c'est ce qui arrive quand t'es une femme et que tu restes pas chez toi. Même de si t'arrive rien, savoir que tu sais mettre un coup de poing, quoi. Et après, tu cours.
Plus vite possible.
C'est ça. Pas juste les techniques de d'habitude de changer le trottoir. Je sais qu'il y a des filles qui prennent en photo les plaques d'immatriculation des taxis avant de rentrer dedans, ou qui tiennent les clés d'une certaine manière dans leurs mains avant d'entrer, enfin, quand elles rentrent chez elles. Essayer de pas rentrer toute seule. Enfin, tant de petites stratégies, en fait, qu'on se rend même pas compte qu'on a, mais juste, enfin, c'est l'idée qu'il faut être organisé, en fait. Tu peux pas juste aller dans l'espace public comme ça. C'est pas un espace qui est fait pour nous.
Mais ici, on est dans le 93. Est-ce que, en vivant dans ce territoire, ça vous paraît particulièrement important de savoir vous défendre?
Non. Pour les agressions, c'est partout, de tout le monde, notamment dans les entreprises, avec des hommes blancs en situation de pouvoir.
Regarde Lydia et observe. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Gainer au maximum, respirer, envoyer. À toi, Myriam.
Moi, j'ai grandi dans un milieu rural et après, donc, j'étais dans une grande ville puisque j'étais au lycée à Caen. Bon, à 18 ans, je me suis retrouvée en prison parce que je faisais du trafic de stupéfiants pour subvenir à mes besoins parce que j'avais un désir d'indépendance et enfin, j'avais pas trop le choix vu l'état de ma famille, mais voilà, fallait que je parte. Et donc, bon, à part s'il y a moyen de faire du babysitting, mais bon, sinon, il n'y avait pas trop de choix à part la prostitution pour les femmes et le trafic de stup pour les mecs, en gros. Et bon, moi, j'ai toujours été plus proche des mecs à l'adolescence, en tout cas, et enfant. Et donc voilà, j'ai commencé par consommer du cannabis et très vite pour pouvoir consommer, il fallait en vendre. Et voilà, comme j'avais donc des potes qui faisaient du trafic, j'ai fait comme eux. Dans le trafic de stupéfiants, on tombe à cause d'une balance. Quelqu'un a donné mon nom au policier en garde à vue et puis on est tombé, on était toute une bande, donc on est tombé à 8. Je suis resté un an. Pour ma première peine. Et en fait, je suis retombée pour le même délit 2 mois après. Donc en tout, j'ai fait 2 ans de prison. Baignée dans cette violence, c'était pas évident. Et c'est vrai que je m'en suis sortie grâce au sport surtout. J'avais commencé en prison, mais il n'y avait pas de boxe. Mais quand même, je tapais sur mon matelas et je courais en rond. Et en fait, de commencer à boxer, ça me permettait justement de lâcher ces mauvaises ondes-là, cette énergie, cette violence qui pouvait être en moi et qui pouvait se résonner avec d'autres blessures d'enfance ou etc. Mais voilà, moi j'avais besoin de sport, donc depuis la prison, c'était mon moyen d'évacuer la haine et toutes les émotions négatives. Par la suite aussi, c'est le meilleur moyen éducatif que j'ai trouvé pour agir sur la confiance en soi, la concentration et d'autres aspects. Donc j'enseigne la boxe à l'école depuis 2010, je crois. J'ai initié des centaines d'enfants dans ce quartier à la boxe éducative. Sa spécificité, c'est qu'il n'y a pas le droit de porter les coups. Donc on doit juste toucher. Donc ça veut dire qu'il faut se contrôler et qu'il n'y a pas de violence et que ça permet de boxer en sécurité, quoi. Parce que je commence ici avec les enfants de 6 ans. Donc au début, les parents avaient des préjugés aussi par rapport à ce sport. Et en fait, tous et toutes ont été très fiers de voir leurs filles boxer lors des tournois et leurs garçons aussi. Mais c'est vrai qu'on a fait un gros travail sur l'égalité filles-garçons. Mes collègues aussi, des fois, me proposent des enfants qui ont des problèmes pour canaliser leur violence. Donc ça, c'est l'autre profil. j'en ai eu un cette année qui était formidable parce que donc il pose problème dans la classe, dans l'école et tout ça sur des confrontations violentes. Mais là, c'est lui qui apprenait aux autres et qui leur remontrait les gestes. Mais non, c'est pas comme ça qu'on boxe. Enfin voilà, il était vraiment, donc ça lui donne confiance de voir que là, il est fort, il est rapide, il est vif. Donc il a des qualités en fait et il est pas que en échec scolaire ou etc. Quand je prends des enfants qui ont ce profil-là, donc c'est de réussir quelque part, ça leur donne ça. Mais ensuite, il y a du plaisir puisque c'est beaucoup de jeux, c'est ludique.
Statique d'abord, statique, tranquille. On vise le menton. Voilà, par contre, il faut être rapproché, sinon un hypercutif passe pas, c'est clair. Voilà, n'ayez pas peur. Et attention, Yasmine.
Audrey Chenu, prof de boxe à Saint-Denis pour l'émancipation des filles dans les quartiers. On termine, Alice Milo, votre enquête reportage. Les femmes peuvent-elles sauver les quartiers sensibles en France? On termine avec une élue. C'est une denrée rare puisqu'on dénombre seulement 8 femmes maires sur 40, rien que sur le département de la Seine-Saint-Denis, le 93.
Oui, et j'ai voulu donner la parole à Sylvine Thomassin, qui est maire de Bondy depuis 2014 et qui se présente à sa propre candidature au municipal, qui se tiendront au printemps prochain.
Allez, on dit bonjour, madame la maire.
Bonjour.
Allez, on prend les photos, tout le monde sourit.
Bonjour, mesdames. Et c'est beau. Bon, ben voilà.
Quand je suis arrivée il y a 7 ans et demi dans ses fonctions de maire, voilà, je me suis installée dans ce bureau. Il m'a fallu quelques jours pour m'installer dans le bureau. C'était mon prédécesseur. Et il était pesant, il était lourd, il était masculin. Il y avait des gros fauteuils en cuir là, qui vous posaient là, un statut. Je ne voulais pas faire trop de dépenses à la ville, donc j'ai gardé le mobilier. Mais j'ai changé les chaises pour des chaises plus légères. J'ai mis de la couleur, des rideaux, tous mes livres. Et je m'y sens beaucoup mieux. Voilà, des fleurs aussi.
Vous avez grandi près de Drancy, donc ce territoire, le 93, la Seine-Saint-Denis, vous la connaissez bien.
Oui, tout à fait. En fait, on s'est installé en Seine-Saint-Denis, j'avais 10 ans, j'avais déjà vécu 7 déménagements, hein. La crise du logement, pas de difficulté à trouver un emploi pour mon père, ça c'était quand même la période plutôt du plein emploi.
Il faisait quoi ?
Plombier, voilà, puis après il a lancé son entreprise de plomberie, mais mes parents étaient des ouvriers. J'ai 10 ans, il s'installe, on est 4, l'année d'après 5, et puis après mes parents adopteront 5 enfants, donc une famille de 10 enfants, et il s'installe dans un pavillon à Drancy, et là on a soufflé avec mes frères et sœurs, et là on a complètement investi le lieu. Il y avait un jardin, c'était juste le bonheur absolu, et voilà. Mais non, je viens d'une famille modeste, et je suis arrivée à 10 ans en Seine-Saint-Denis et je ne l'ai jamais quitté. Ce département m'a accroché le cœur. En fait, je me suis jamais posé la question de l'engagement parce que j'ai tété ça au biberon. En fait, mes parents ont toujours été engagés. Parents d'élèves, ma mère a même fondé une grande association humanitaire en Haïti. Il se trouve que j'ai eu des enfants très tôt, à 17 ans et à 20 ans. Et donc, naturellement, presque sans y penser, quand je suis moi-même devenue à 20 ans, ma fille rentrée à l'école maternelle, eh bien, je me suis engagée aux parents d'élèves. Mes enfants ont voulu faire un peu de judo. Il manquait une secrétaire au club sportif. Je dis, ben, pourquoi pas, je suis là à les regarder autant que je fasse le secrétariat. Voilà, c'est de l'ordre de l'impensé, c'était naturel. Hein. Après, ben, on a fondé avec quelques amis une amicale de locataires, et puis une association de défense des droits des femmes, parce qu'on sentait bien que nous, on était quand même un peu privilégiés, mais qu'il y avait des femmes qui avaient besoin de notre aide, un compagnonnage entre pères, enfin quelque chose pour se soutenir les unes les autres. Puis un jour, je me suis dit, c'est passionnant l'associatif, mais on est toujours en train de demander des locaux, des subventions. Bon, est-ce qu'il ne faudrait pas passer le pas et aller là où se prennent les décisions, dans un parti? Et donc, je suis rentrée dans ces mêmes années-là, hein, 89-90, au PS.
Et puis, vous vous êtes retrouvée maire de Bondy. Pourquoi Bondy?
D'abord, on a fait partie de l'Assemblée des femmes, avec un certain nombre de femmes, de droite et de gauche. Hein. On a fondé l'Assemblée des femmes. On voulait la parité. Mais on n'a jamais pensé que ça serait pour nous. On pensait qu'on travaillait pour 10, 20, 30 ans. Des fois, en riant, on disait on travaille pour nos filles, voire pour nos petites filles. Et brutalement, Lionel Jospin, 97-2002, au pouvoir, fait voter la loi sur la parité. Il n'était pas connu pour être le plus féministe au Parti Socialiste. Je pense que Sylviana Gazinski, sa compagne, avait dû le faire changer de braquet. Ça a été la révolution culturelle pour lui. Banco, loi sur la parité. Les partis ont regardé autour d'eux. Il n'y avait pas de femmes. Enfin si, il y avait celles qui distribuaient les tracts et balayaient le local, mais guère plus, et on ne nous avait jamais demandé grand-chose de plus. Et donc, brutalement, on a été toute une génération à se trouver propulsée alors que nous, on pensait travailler pour nos filles, voire nos petites filles. Ça a été passionnant. Moi, je me suis retrouvée conseillère régionale d'Île-de-France, sans être passée par le mandat local, donc il a fallu apprendre très, très vite.
Que d'un coup, tout s'est accéléré, ouais. En fait. Moi.
Voilà, pour les femmes qui venaient du milieu syndicaliste, associatif, qui avaient décidé de rentrer en politique, mais qui restaient quand même bien sur la marge. Hein. La politique, c'est le fief de l'ancien régime, c'est très masculin, la politique, hein, surtout du fait de notre histoire. Et donc, on s'est trouvé propulsé. Et là, Gilbert Roger, le maire de Bondy, me demande de venir. Lui aussi cherchait des femmes.
Depuis 2011, donc vous êtes à la tête de cette ville. Est-ce que le fait que vous soyez une femme, ça a été un facteur qui a rendu la tâche plus compliquée ?
D'abord, j'ai senti beaucoup de fierté des femmes de cette ville qui m'ont écrit en disant « Ah, une femme, c'est possible !» Bon, elles étaient fières du fait qu'une femme puisse devenir première magistrate d'une ville. Et après, j'ai aussi senti, mais plutôt du côté des institutionnels, pas du côté des habitants, de l'État, de la préfecture, le territoire, le département, les autres maires de Seine-Saint-Denis. Il va falloir quand même qu'elle en fasse, hein, qu'elle nous montre qu'elle est capable d'être mère. On met toujours la barre plus haute pour les femmes que pour les hommes. Je me souviens de réunions où je prenais un bêta-bloquant avant, un petit médicament qui empêche d'avoir les mains moites, le cœur qui bat la chamade et les jambes en coton. Je me médiquais en certaines réunions publiques. Je me disais une heure avant, bon, allez, la demi-vie du médicament, je sais ce que ça donne, allez, je vais en prendre un. Je ne le recommande peut-être pas à tout le monde, maintenant je ne le fais plus. Hein. Mais il m'a fallu 2-3 ans avant d'arriver à être complètement tranquille. Donc voilà, ça a duré quand même un certain temps. Je ne connais pas d'homme en politique qui ait fait ça, pour tout vous dire.
Vous êtes candidate aux élections municipales qui auront lieu au printemps 2020. Quels sont vos vœux ?
Eh bien, vous voyez, je vais me laisser aller et je vais vous dire que j'aurais besoin d'un peu moins de testostérone. C'est terrible, hein. La campagne est déjà partie. Les réseaux sociaux fonctionnent à plein. Avec cette malhonnêteté intellectuelle, avec le coup du buzz, de l'instantanéité, avec des jugements de valeur, avec beaucoup de muscles, monsieur muscle. Je connais la violence en politique, d'ailleurs elle n'est pas qu'en politique, elle est dans tous les lieux de pouvoir. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que mon prédécesseur n'a jamais connu une telle violence, jamais. Et que cette violence, elle m'est bien destinée, parce que je suis une femme. Juste de dire que les chiens se lâchent plus facilement quand il s'agit d'une femme. Et que là, il n'y a plus de retenue. On peut tout oser. Des attaques personnelles sur moi-même, mais ma famille également, mes proches, j'en ai énormément reçu. On peut tout dire, y compris les mensonges les plus éhontés. Il suffit de prendre le journal de la ville, alors on va aller sur un des groupes qui ne s'intéresse qu'aux indemnités et ils disent que ces fonctions devraient être gratuites. Ah bah très bien, donc nous n'aurons comme avant la Révolution française que des élus qui seraient des retraités ou des rentiers.
Donc là vous parlez de groupes adversaires opposants qui dénoncent des indemnités que vous auriez perçues en fait en tant que maire.
C'est cela, c'est d'une rare brutalité et je remarque quand même que mon prédécesseur ne subissait pas cette brutalité-là.
Je vais appeler les centres au fur et à mesure et on va aller jusqu'au stade de Lagrange. On va commencer par Prévert. Prévert, on peut se lever, les animateurs on peut remettre les gilets jaunes.
Les femmes peuvent-elles sauver les quartiers populaires sensibles dans les banlieues ? Alice Milo, toutes ces femmes qu'on a entendues, que vous avez choisies pour votre reportage, elles ont un point commun qu'elles ont souligné hors micro.
Oui, c'est vrai, toutes m'ont précisé une chose importante pour elles. Si elles sont là, présentes, combatives et disponibles sur le terrain, c'est parce qu'elles ont toutes des compagnons solides à la maison qui croient en elles, en leur combat, et qui n'ont pas peur de prendre leurs responsabilités, de s'occuper des enfants, de la cuisine, des cours et du ménage.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin à retenir, bien évidemment. Merci à vous, Alice Milo. Vos réactions, les voisins, les voisines, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr et sur les réseaux sociaux concernant ce reportage. Demain, 7 milliards de voisins, journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Comment éviter la perte des denrées agricoles en Afrique ? On en débattra et bien sûr, on attend vos appels.